Bonsoir, comment allez-vous ? La notion d'instant présent est à la mode. Tant mieux, car il n'y a que le présent qu'on vit en fait. Le passé est passé, le futur n'est pas encore là. Donc si on vit le présent en pensant à un truc terminé ou à un truc même pas sûr, eh bien on ne le vit pas. Et pendant ce temps-là, le présent passe au passé. Vous avez beau fermer les yeux pendant le film, il continue à tourner. Et quand vous les rouvrez, la scène est terminée. Parfois c'est le but d'ailleurs, quand on pressent que la scène sera insoutenable. Tiens, tiens, s'absenter volontairement. Vivre l'instant présent veut dire être entièrement à ce qu'on fait. On peut et même on doit organiser le futur. Je bâtis une maison pour l'habiter l'année prochaine. Mais pendant que je monte mon mur, je monte mon mur. Je ne répète pas dans ma tête la conversation que je vais avoir lundi avec mon boss. Je ne rejoue pas non plus dans ma tête le jour où j'ai été accusée à tort et me suis mal défendue. Ressasser n'est pas comprendre et encore moins réparer. Connaître le passé est utile pour vivre le présent, au mieux. Les histoires, comme l'histoire, nous font rencontrer des gens qui n'habitent pas sur notre palier, partager des vies, d'autres vies, ça permet de goûter la sienne.
Bonjour, j'ai 4 ans et demi, je voudrais savoir pourquoi Marie Antoinette était morte. Je m'appelle Adèle, merci.
Didier Le Fur, vous êtes historien. Adèle qui demande pourquoi Marie Antoinette était morte. Il faut répondre en 3-4 minutes, c'est un peu compliqué, est-ce qu'on vous demande ?
Oui, c'est un peu compliqué. Alors, elle est morte parce qu'elle était reine de France et que la monarchie a été abolie le 10 août 1792.
Marie-Antoinette est morte quel jour ?
Le 16 octobre 1793,
un peu plus d'un an après.
Ah ouais, c'est ouais. Ça. Et donc, pendant tout ce temps, elle a été emprisonnée avec son mari et ses enfants et sa belle-sœur. Et longtemps, on s'est demandé ce qu'on allait faire d'eux exactement. On a cru qu'on pouvait les échanger, qu'on pouvait les exiler.
Ah, c'est pour ça qu'on les a gardés, entre autres, parce oui. Qu'on pensait qu'ils pouvaient être rentables, entre
guillemets. Bien sûr qu'ils étaient, voilà. Et cette idée, donc, du prisonnier utile était vraiment dans les esprits. Et quand Louis XVI meurt le 21 janvier 1793, que faire de son épouse et que faire de sa fille et de son fils ?
Qui, eux, n'étaient pas considérés comme des traîtres.
Pas encore. Mais elle était quand même autrichienne, la France était encore aussi en guerre contre l'Autriche, et l'idée de l'échanger a plané. On a imaginé aussi la faire évader, et puis peu à peu, la révolution augmentant, les lois répressives se structurant. Il est devenu presque une évidence que Marie-Antoinette n'était plus utile politiquement, et surtout qu'elle devenait même un danger d'être en vie encore pour la République, en tout cas telle qu'on pouvait l'imaginer. Et qu'à partir de septembre, il y a de la terreur et des lois des suspects, la vie de Marie-Antoinette n'avait plus d'espérance. Et son procès a été déclenché début octobre, il a duré 2 jours, les avocats ont été commis d'office la veille, il n'y a pas eu de plaidoirie, il n'y a pas eu de possibilité de défense. On l'a accusé aussi d'avoir eu des rapports incestueux avec son fils.
Non. C'est vrai ça qu'elle a eu des rapports incestueux avec son fils ?
Ah non, du tout. C'était l'idée de la détruire, de détruire l'image à la fois de la femme, de la reine et de la mère. C'est-à-dire qu'on était dans l'idée de l'humiliation totale. Alors, certes, c'est pas la seule femme qui ait vécu ce genre de choses. Il y a une quantité de procès à travers l'histoire qui ont, ou des tas de femmes et d'hommes qui ont vécu ce genre de choses. Marie-Antoinette est un exemple de cette humiliation-là. Et son incarcération pendant un an au temple a été relativement correcte. À partir du moment où elle est arrivée à la conciergerie, là, c'est devenu assez humiliant. Elle était visitée, on payait pour la voir. Il y a eu une tentative d'évasion, on l'a mise après dans un cachot plus sécurisé, avec 2 gardes en permanence avec elle, et 2 gardes à l'extérieur. Le jour de son exécution, elle a eu une hémorragie, elle était là, toute seule, devant tout le monde, avec son sang. Et puis, lorsqu'on a décidé de son exécution, donc le 16 octobre 1793, elle a fait le voyage toute seule dans sa charrette, elle était tenue en laisse. Et le temps d'aller de la conciergerie à la place de la Concorde, ce qui n'est pas très très loin, non. Ça fait quoi ? Un quart d'heure, 20 minutes à pied.
Moi, en Vélib, je mets 10 minutes.
Bon, oui. Voilà. Ça a mis 1h30. Et la foule était là. Oui, 30 000 soldats pour garder et pour protéger la foule. Et une exécution qui, finalement, s'est passée, j'allais dire, très très bien dans l'imaginaire des Parisiens de l'époque qui ne la supportaient plus et sur laquelle on avait focalisé pratiquement exprès presque tous les défauts de la monarchie. C'est-à-dire l'idée de la dépense, de l'absence de réflexion, du côté amorale d'une société, eh bien, on avait tout concentré sur elle et sur son image pour en faire finalement la chose à détester.
Didier Le Fur a obtenu le Grand Prix de la biographie politique 2017 pour son livre « Diane de Poitiers » édité chez Perrin. Vous savez, Diane de Poitiers, on dit d'elle qu'elle a été la maîtresse de François Ier, puis de son fils Henri II. On dit tellement de choses sur Diane de Poitiers. Mais Didier Le Fur remet les pendules à l'heure. À propos d'heure, enfin de chiffres, pour nous appeler, vous faites le 01 56 40 43 57 et vous tomberez sur un répondeur.
Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir pourquoi, plus qu'on monte en montagne, plus qu'on s'approche du soleil, plus qu'il fait froid. Merci.
Emmanuel Beaucry, vous avez compris sa question ?
J'ai compris. Alors, Liane, bonjour. C'est une très très bonne question parce que ça montre d'abord que tu as deux qualités de météo. La première, c'est d'observer et après de se poser des questions. Alors, c'est relativement simple. Ça revient à dire comment l'air se chauffe. Alors, le soleil, dans la journée, nous envoie ses rayons. Les rayons vont traverser l'atmosphère et vont quasiment pas avoir d'influence sur l'atmosphère. Par contre, ça va taper sur le sol. Et sur le sol, la lumière va se transformer, va nous renvoyer ce que nous appelons des infrarouges. Ça va chauffer le sol. Ce sol, en se chauffant, va chauffer les premières couches de l'air. Et les premières couches de l'air vont chauffer les couches d'air un peu plus hautes, etc. Mais à chaque fois, on perd un peu de température. C'est pourquoi, en général, il fait beaucoup plus chaud en partie basse qu'en partie haute. Et quand on monte en montagne, on a le même problème. On se rapproche du soleil, on reçoit les rayons du soleil direct, mais ça chauffe un petit peu. Mais l'air dans son ensemble est plutôt frais, parce que c'est de l'air qui a été chauffé par les couches qui sont en dessous, et donc très loin en dessous.
En fait, si je comprends bien Emmanuel Beaucry, la Terre est plus chauffable que l'air.
Oui, alors les rayons du soleil, quand ils traversent l'atmosphère, vont donner un peu d'énergie à l'atmosphère, mais très peu. Et c'est essentiellement la transformation des rayons quand ils vont taper soit sur le sol, soit sur la mer, soit sur les objets ou les êtres vivants, qui vont se transformer en infrarouge. Alors il y a une expérience qui est assez simple pour comprendre ça. En été, on voit souvent quand le ciel est très clair, la température redescend beaucoup en cours de nuit. Bah pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de nuages. Et les infrarouges qui viennent du sol, qui ont été chauffés dans la journée, partent vers l'espace. Par contre, s'il y a des nuages en cours de nuit, on va avoir une température qui va descendre beaucoup moins, parce que les infrarouges vont partir vers l'espace, mais ils vont rencontrer les nuages qui vont renvoyer les infrarouges vers le sol. Donc il fera un petit peu moins froid en cours de nuit.
Ouais, donc vraiment, tout vient du sol. Et les nuages, ça fait comme une couette, quoi.
Ça fait une couette.
Vous connaissez Emmanuel Beaucry, ingénieur, météorologiste, directeur de l'unité média de Météo France. Quant à Liane, c'est ta question que nous avons passée parce que plus qu'on monte, plus qu'on s'approche du soleil, plus qu'il fait froid, nous a fait craquer. Mais il y a des dizaines et des centaines de questions sur le même thème.
C'est le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien. Tout va bien,
dit tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
Tout va bien, c'était Aurel San. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Nous le disons tous. Il y a des faux airs de Stromae. C'est lui qui a écrit la musique.
Les petits bateaux sur France Inter.
Bonjour, je suis Célie Soligo, j'ai 8 ans et demi. Et je vais vous poser une question. Est-ce que les vrais jumeaux ont les mêmes empreintes digitales? Merci.
Bonjour, c'est Antoine. Je voudrais savoir si les jumeaux ont le même ADN. Merci.
Bonjour Antoine, et puis avant toi, j'ai pas compris le prénom, mais peu importe, la question est super. Nous l'avons proposée à Patrick Rouget, auteur de Sur les traces de la police scientifique, édité chez Le Pommier. Patrick Rouget, responsable des services de police technique et scientifique au sein de la police judiciaire toulousaine.
Alors, tout d'abord, les empreintes digitales. Il faut savoir que les empreintes digitales se dessinent sur notre corps humain à partir de la 8e semaine de la vie intra-utérine et elles vont être immuables jusqu'à la mort.
On a des empreintes digitales dans le ventre de sa mère?
Tout à fait. Et donc, jusqu'à ce qu'on décède et que notre corps soit putréfié, on garde les empreintes digitales. On appelle ça l'immutabilité. Donc, ces empreintes digitales, en fait, ce sont des sillons et des crêtes. Ce sont des petits plis qu'on a aux extrémités des doigts ou des pieds ou même sur la paume des mains. Et ces sillons et ces empreintes digitales, donc, sont dus à la pression du liquide amniotique quand on est dans le ventre de la maman et du sang. Et en plus, quand le fœtus se retourne ou suce son pouce, il va modeler ses empreintes digitales. Donc c'est un effet mécanique qui nous les forme. Donc les vrais jumeaux, eh bien, ils vont se distinguer parce que la pression ou dans le liquide amniotique ou du sang, où ils vont pas sucer leur pouce en même temps ou pas de la même façon, ça va leur former des empreintes digitales différentes.
Oui, vous l'avez dit, c'est mécanique, c'est pas chimique.
C'est mécanique. Par contre, au niveau de l'ADN, ce n'est pas pareil. Alors, il faut savoir que notre corps humain est composé de cellules, et dans cette cellule, qui ont des noyaux, ce noyau contient un long filament qui s'appelle ADN et qui contient les gènes. Alors, l'ADN, acide désoxyribonucléique pour nos petits scientifiques. Donc, ils contiennent ces gènes, et cet ADN est organisé en chromosomes. Et leur nombre est constant, est égal à 23 paires. Et la moitié de chaque paire provient de la mère et du père. Donc, c'est pas un effet mécanique, mais ça vient de la génétique. Donc les vrais jumeaux qui sont conçus dans le même œuf, ils ont exactement les mêmes empreintes génétiques.
D'accord.
Donc nous, en police technique et scientifique, comme on relève à la fois maintenant le profil génétique avec l'ADN et les empreintes digitales, eh bien, si on a des vrais jumeaux, l'ADN ne pourra pas servir à les identifier séparément. Mais par contre, leurs empreintes digitales pourra nous les identifier. Et s'il y en a un qui est honnête et pas l'autre, on pourra faire la différence entre les deux.
C'est vraiment intéressant parce qu'il y a tellement de fictions, de livres, de films, de séries, de téléfilms sur le travail de la police qu'on finit par plus très bien savoir quel est le vrai et quel est le moins vrai et quel est le carrément faux. Donc merci Patrick Rouget.
Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 9 ans et je voudrais savoir qui a décidé que dans une phrase, le masculin l'emportait sur le féminin. Merci, au revoir.
Bonsoir Laura, nous avons proposé cette question à une femme. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, vous allez rester impartial. Muriel Gilbert, auteur du livre « Au bonheur des fautes » édité à la librairie Vubert et vous êtes correctrice.
Oui, je ne sais pas si je vais être impartiale. En tout cas, je ne suis pas étonnée que ce soit une petite fille qui pose cette question, parce que la formulation même de cette règle, elle fait mal aux oreilles des filles. D'ailleurs, depuis quelques années, on dit plutôt que le masculin fait fonction de neutre. À mon avis, on essaye quand même un tout petit peu de nous enfumer, parce que c'est toujours du masculin. Alors, elle dit quoi, cette règle? Elle dit, on dit la fille est belle, on dit le garçon est beau, mais on dit la fille et le garçon sont beaux. Avec l'adjectif beau, au masculin, pluriel. Et même s'il y a 10 filles, ou même s'il y a 100 filles, ou même s'il y a 1000 filles, il suffit qu'il y ait un garçon pour qu'on écrive « les 1000 filles et le garçon sont beaux ». C'est ça la règle, le masculin l'emporte sur le féminin. Eh bien, figure-toi Laura que ça n'a pas toujours été comme ça. Et peut-être même que ça ne sera pas toujours comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Depuis les années 1990, un certain nombre de féministes, des femmes, des hommes et puis même des éditeurs, militent pour l'adoption de ce qu'ils appellent la règle de proximité.
Ce qui veut dire ?
Alors, c'est une règle d'ailleurs qui n'a rien d'une invention abracadabrante, ce qui veut dire on accorde avec le mot le plus proche. Ça veut dire, on dirait, la fille et le garçon sont beaux, mais le garçon et la fille sont belles. Et finalement, ce n'est pas une invention ou une élucubration si bizarre, parce qu'avant le XVIIe siècle, un adjectif qui se rapportait à plusieurs noms pouvait s'accorder avec le nom le plus proche. Et cette règle, elle remonte même à l'Antiquité. En latin et en grec ancien, elle s'employait couramment et elle est encore usitée dans certaines langues romanes comme l'espagnol et le portugais, me suis-je laissé dire. Le grammairien Vaugelas, qui est un des grands grammairiens qui a fixé la langue française, il est mort en 1650, il a été aussi l'un des premiers membres de l'Académie française. D'abord, il avait recommandé d'accorder le cœur et la bouche ouvertes, c'est une citation de lui. Et puis il a changé d'avis quelques années plus tard et il a dit non, parce que le genre masculin est le plus noble, et là je cite, il prévaut tout seul contre deux ou plusieurs féminins, quoi qu'ils soient plus proches de leur adjectif. Donc la domination du masculin en français, dans la langue française en tout cas, c'est bien une invention du XVIIe siècle, instaurée, je dirais, un peu par sexisme quand même, il faut voir les choses telles qu'elles sont. En 1676, un autre grammairien zélé de l'Académie, qui s'appelait le père Bouhour, a écrit « Lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle », a renchéri un peu plus tard le grammairien Nicolas Bozé.
Comme bref, ces choses sont clairement dites.
C'est très clair, hein. Alors voilà, qui donne des envies de changement et de distribution de baffes, si je peux me permettre. En tout cas, moi, ça m'énerve.
Ça changerait rien.
Alors, au cours de la Révolution française, même les femmes avaient déjà demandé que cesse cette règle de l'accord. Ouais, tout à fait. En même temps qu'elles réclamaient le droit de vote. Et donc, il y a aujourd'hui des gens, mais tout à fait sérieux, qui demandent la réhabilitation de l'usage de la règle de proximité, dont on a parlé tout à l'heure, qui consiste à accorder les mots avec le terme le plus rapproché. Alors, malheureusement ou heureusement pour les conservateurs linguistiques, la règle qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin semble solidement installée, mais...
Voilà, Muriel Gilbert, je ne voulais pas préciser, correctrice au journal Le Monde. Son blog est passionnant et souvent drôle. Vous trouverez le lien sur le site des Petits Bateaux par franceinter.fr. Alors, à propos d'orthographe, je lisais dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, mardi dernier, que 10% des mots du Larousse de 1856 ne figurent plus dans l'édition actuelle. Par exemple, année avec un seul N, avec un E à la fin, année avec un seul N, la charge d'un âne, une cognasse, c'est le fruit du coin sauvage. Ou bien un blattier ne s'occupe ni des cafards ni des blattes, c'est un marchand de blé.
I gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world up on my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. I'm gonna take a little time, a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love is flesh finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, travel so far to change this lonely life.
C'est étonnant et plaisant, cette impression de découverte et de déjà entendu. C'était Anne Brun qui chantait une chanson de Foreigner sur France Inter où vous écoutez Les Petits Bateaux. Jérôme Gaillardet est agrégé de sciences naturelles et il est professeur à l'Institut de physique du globe de Paris.
Bonjour, je m'appelle Élie, j'ai 5 ans et demi. Je voulais savoir pourquoi la mer s'enfonçait pas dans le sable.
Pourquoi la mer ne s'enfonce pas dans le sable, Jérôme Gaillardet ?
Alors la question de Lise est à la fois simple et complexe. L'eau s'enfonce en fait dans le sable. Et le sable qui est au fond de la mer, c'est un milieu poreux. Hein, ce sont des grains qui sont séparés par des vides dans lesquels l'eau de mer pénètre. Mais plus on va s'enfoncer dans le sable au fond de la mer, plus la pression va être forte et donc plus les espaces entre les grains vont être petits. Et à une certaine profondeur, ce sable il devient imperméable, c'est-à-dire qu'il est plus capable de contenir de l'eau et du coup d'en faire passer à travers lui.
Parce que les grains sont trop serrés.
Donc du coup, le fond de la mer devient imperméable. Et c'est pour ça que l'océan ne s'infiltre pas en dessous. L'eau de l'océan ne s'infiltre pas en dessous. Mais c'est une très bonne question.
C'est génial. Encore une fois, je suis sidérée de voir que ce n'est pas un changement de matière qui fait que ce sol est perméable ou imperméable. C'est la même matière, c'est la même composition, c'est le même sable, mais physiquement, c'est différent. Les grains sont espacés ou les grains sont complètement serrés.
Oui, alors on peut complexifier un tout petit peu. C'est-à-dire que le sable que l'on trouve au bord des plages n'existe pas partout dans l'océan. Plus on va dans l'océan lointain, plus le sédiment qui se dépose au fond de la mer est fin.
Ah oui.
Et si vous avez la chance d'aller faire de la plongée à des profondeurs un peu plus grandes, ou voire encore mieux, d'utiliser ces petits bathyscaphes qui permettent d'aller à de très grandes profondeurs, vous verrez que le sédiment, c'est de la poussière très très fine. Donc il est encore moins poreux, donc il est encore moins susceptible de contenir de l'eau. Mais il en contient néanmoins un petit peu. C'est ce que les géologues appelleront des argiles et pas du sable.
Merci Jérôme Gaillardet, c'est bien la radio pour aller regarder de près le sol du fond des océans. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Nous reviendrons dimanche prochain à partir de 19h30. Merci à Pauline Laverdure, à Jean-Baptiste Audibert et à Marjorie Devoucoux. Notre site vous attend par franceinter.fr.